Bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Salumu et aujourd'hui je reçois pour vous Madame Mariem Bakan. Elle est présidente et fondatrice de Next Africa Finance Solutions. Next Africa Finance Solutions est une fintech créée en 2018 qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire et qui opère en Afrique de l'Ouest et à l'international. Elle œuvre dans la digitalisation de services financiers. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Madame Mariem. Mariem, bonjour.
Bonjour John, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
C'est un plaisir pour moi également. Comment ça va de votre côté?
Ça va, tout va très bien. Je vous remercie. Tout se passe bien. On se prépare pour la fin de l'année.
Ah, en tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. De notre côté également, tout se passe très bien. Et vous êtes à Abidjan, c'est ça, n'est-ce pas?
Oui, je suis bien à Abidjan.
Ok, et ce n'est pas très, très busy ces derniers temps à Abidjan?
Beaucoup d'embouteillages, mais Abidjan est une très belle ville.
en tout cas, ça c'est une très, très, très bonne chose. Alors, Mariem, avec vous, nous allons discuter un peu sur plusieurs questions. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur votre parcours professionnel?
Oui, avec grand plaisir. Concernant mon parcours professionnel, j'ai démarré ma carrière en France, après des études en Afrique et une spécialisation en France, où j'ai travaillé tout d'abord comme analyste quantitatif. Donc, ce sont ceux qui travaillent sur les modèles mathématiques appliqués à la finance, qui valorisent des instruments financiers, qui font des prévisions sur les prix, etc. Et par la suite, j'ai travaillé sur tout ce qui était gestion des risques financiers, donc les différents risques, notamment beaucoup de risques de marché, de la validation de modèles financiers, etc. Et j'ai également travaillé dans la gestion quantitative, donc là aussi très basée sur des modèles, pour réaliser des allocations au niveau des investissements, des portefeuilles, d'investissements sur différentes classes d'actifs, différentes régions. Et ensuite, je suis arrivée en Côte d'Ivoire, où j'ai travaillé comme gérant aussi, responsable de la gestion, sur le marché de la BRD. Et après cela, j'ai décidé de sauter le pas et de créer ma propre entreprise dans la fintech parce que j'ai fait le constat qu'il y avait énormément de choses à faire, à automatiser dans les processus ici en Afrique. Et donc, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. Et par ailleurs, je fais également du consulting auprès de la Banque africaine de développement.
OK.
Donc, voilà à peu près pour mon parcours.
En tout cas, non mais ça c'est vraiment un parcours très 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 blindé si on peut le dire comme ça. Et puis moi je vous en prie Mariem, mais il y a quand même une question que je me pose la question. Vous avez eu à créer votre entreprise Next Africa Finance Solutions. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Next Africa Finance Solutions?
J'ai créé Next Africa Finance Solutions. Faut dire que depuis très longtemps, j'avais envie d'entreprendre, etc. J'ai pensé à plusieurs idées, mais j'ai jamais vraiment osé. Mais quand je suis arrivée, que j'ai vu l'environnement en Afrique, je suis arrivée dans une institution où il y avait énormément de choses à automatiser et qui était quand même une référence sur le marché. Et je me suis dit, il y a encore plus à faire ailleurs. Et il y avait également une certaine frustration parce que dans le quotidien, il y a des choses que moi, je pensais qui devaient être, on va dire, facilitées, automatisées, que ce soit pour moi en tant qu'employé ou que pour les clients, etc. Et donc, par exemple, quand je suis arrivée, moi, en tant que gérant sur des portefeuilles d'investissement, je n'avais pas d'outils front pour gérer, donc pour prendre mes décisions d'investissement. Donc, il a fallu que je... Heureusement que je savais développer, que je développe moi-même mon outil pour pouvoir prendre mes décisions de façon éclairée, en maîtrisant mes risques, en ayant une vue vraiment objective de tout ce que je faisais. Et j'étais également très frustrée qu'à chaque fois, que ce soit à la banque, que ce soit moi-même quand je devais investir sur des opérations de marché, que je doive à chaque fois remplir à chaque fois les mêmes documents, les mêmes formulaires. Et voilà, donc j'ai décidé de me consacrer à la digitalisation des processus financiers avec NAS et en mettant en accent également tous les aspects de gestion des risques au niveau des investissements ou des risques opérationnels ou de connaissances clients. Donc notamment avec NAS, on propose une solution qui permet de digitaliser la commercialisation et donc qui permet de faciliter tout le parcours client. Plus besoin de se déplacer avec des queues interminables. Donc la solution elle intègre un KYC, de la signature électronique, du paiement électronique, mais et donc ça permet de gérer non seulement de faciliter la vie aux services financiers en leur permettant de se concentrer vraiment sur leur cœur de métier, mais aussi en gérant les différents risques opérationnels et surtout à améliorer l'expérience client qui est aujourd'hui dans notre zone pas très terrible.
Ok, non, je vois, je comprends parfaitement sur quelle base vous êtes fondé et les choses que vous ont poussé à pouvoir commencer NAFS. Et puis, je me demande quand même, venant de l'Europe, comme vous avez souligné, vous êtes venu en Afrique pour devoir commencer aussi cette compagnie que vous aviez à cœur. Vous aviez déjà des idées d'entrepreneur depuis longtemps. Je me demande, pour ceux qui veulent avoir un impact sur un nouveau marché, ceux qui veulent pénétrer un nouveau marché, qu'est-ce que suggérez-vous qu'ils devraient faire?
Je dirais que l'une des premières choses à faire, c'est de comprendre les réalités et les habitudes du marché.
Okay.
Parce que d'un marché à l'autre, les choses ne sont pas forcément les mêmes, les manières de fonctionner, les cultures ne sont pas les mêmes, etc. Donc il y a un vrai travail d'analyse à faire là-dessus, même si je ne suis pas du tout adepte, par exemple, des business plans.
Okay.
Parce que trouve que c'est en ouais. Je trouve que c'est une perte de temps.
Okay.
Moi, j'ai dû le faire à un moment parce que j'avais des contraintes par rapport à un agrément que je demandais.
Oui.
Mais je trouve que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de partir sur des hypothèses, de les tester, de mesurer les résultats et d'ajuster. Parce que dans la plupart des cas, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs le diront, les business plans et la réalité, c'est un monde. Il y a un monde entre les deux. On ne connaît vraiment les choses que quand on se confronte réellement au marché. Et donc, voilà. Pour moi, ça, c'est la première chose à faire. Et il faut savoir également partir sur quelques... on va dire sur de l'innovation. Il faut de la différenciation. Après, elle peut être totalement de rupture ou pas, en fonction du domaine, en fonction du secteur. Mais il faut pouvoir apporter une certaine valeur ajoutée. Il est également important de comprendre que dans le domaine de la fintech, par exemple, dans lequel je suis, c'est souvent des habitudes qui sont modifiées. C'est souvent des modes de fonctionnement qui sont totalement, on va dire, améliorés ou totalement changés. Donc, il peut, des fois, les marchés ne sont pas forcément prêts. Des fois, il y a tout un processus d'éducation ou de... Voilà, et ça va avec une certaine patience et comme je dis, tester, mesurer, ajuster. Et une autre chose également que j'ai appris sur le marché local, c'est que le réseau... Le réseau est quelque chose de très, très, très important. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment, pour moi, il faut se confronter, essayer, modifier et avoir quand même une certaine expertise et un sens de la qualité qui,
Je vois, Mariam. Lorsque vous parlez du réseau, est-ce que vous sous-entendez qu'il est important de bâtir son propre réseau?
Moi, c'est quelque chose qui, personnellement, à laquelle je prêtais pas forcément attention au début. Parce que je me suis toujours dit que c'est la compétence et la qualité qui fait la différence. Mais je me rends compte que sur certains marchés, au-delà de tout cela, le réseau peut être un grand facilitateur.
Je vois, et donc il est donc important de pouvoir
Après, c'est pour ça que je parlais d'habitude ou de réalité de marché. Voilà, les sociétés africaines ont un mode de fonctionnement très particulier.
Exactement, et même les cultures sont différentes, comme vous l'avez souligné.
Exactement.
OK. Et alors, mais alors, lorsque vous parlez de l'automatisation, par exemple, quel conseil donneriez-vous en ce qui concerne la gestion des risques du processus de l'automatisation?
D'accord. Par rapport aux différents risques lorsqu'on parle sur de l'automatisation, je parlerai d'abord des éléments dont il faut s'assurer qu'ils sont présents avant de débuter un processus d'automatisation ou de digitalisation. Bien entendu, il faut tout d'abord identifier l'ensemble des axes d'amélioration, les éléments qui sont les plus critiques, les failles potentielles, etc., etc. Mais il faut également intégrer, parce que on parle d'automatisation ou de digitalisation, mais au final, c'est les hommes qui sont les plus importants. On va dire l'outil au service de l'homme, entre guillemets. Et donc, il est important d'avoir une acceptation, une adhérence de ces personnes-là. Donc, il faut intégrer toutes les parties prenantes dès le début du processus. Une chose également qui est importante, parce que je parle des choses pour dire que si on ne les fait pas, après, il y a un gros risque d'échec ou il y a un gros risque que les choses ne se fassent pas correctement. Donc, il est également important de procéder étape par étape. Parce que des fois, on a un projet et on pense qu'on va tout réaliser d'un coup. Mais voilà, il est important d'avoir des choses qui, au fur et à mesure, sont améliorées. Donc, toujours le tester, mesurer et ajuster, qui permet, au final, d'avoir une solution qui est beaucoup plus stable, automatique, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisée et surtout qui correspond aux besoins réels. Parce il ne sert à rien de créer quelque chose, d'automatiser quelque chose si finalement ça n'est pas utilisé ou ce n'est pas adapté. Et il est également important de prendre en compte au niveau de la conception, de faire en sorte d'avoir une certaine rigueur, une certaine excellence, parce que des fois, dans le domaine, par exemple, du logiciel, on se retrouve des années après à devoir tout reprendre à zéro parce que les choses n'ont pas été bien pensées dès le départ. Donc, c'est également un gros risque et il ne faut pas oublier, en fait, tous les risques qui vont avec tous ces processus de digitalisation, tels que le risque lié à la cybersécurité, par exemple. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, au moment de la conception, d'embarquer, on va dire, tous ces éléments de façon, au final, d'avoir une solution qui réponde et qui est de façon globale à l'ensemble des besoins et qui permet d'éviter les risques majeurs. Mais pas se dire on fait une chose et après on voit comment on ajuste.
Non, je vois, je comprends cela. Et lorsqu'on parle des risques, par exemple, vous avez souligné, en parlant des risques liés à l'automatisation, vous avez parlé de certains risques qui sont liés à la sécurité également. Est-ce que c'est un point qui est assez important aussi dans la chose?
Oui, c'est un point qui est essentiel parce que moi, tel que je conçois l'automatisation, c'est au-delà du fait de faciliter ou de rendre des choses beaucoup plus rapides, etc. C'est également un moyen de sécuriser.
OK.
Par exemple, si on parle du domaine financier en particulier, automatiser des choses font qu'il y a un moins grand risque de fraude, par exemple.
Oui, oui.
Automatiser des choses permettrait, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme, de pouvoir identifier des choses beaucoup plus facilement au travers d'un KYC qui est automatisé entre. Et donc, oui, la sécurité est un élément essentiel dans un processus de digitalisation.
Okay.
Au-delà des aspects économiques ou des aspects d'expérience client, etc. C'est un tout.
Ok, ok, ok. Je vois que c'est un tout lorsqu'il s'agit de vouloir automatiser tout ce qu'on est en train de faire. Et puis, alors Mariam, je me demande pour une entreprise, disons une entreprise qui est coincée dans les voies traditionnelles, lorsqu'il s'agit de commercialiser le secteur des services financiers et d'automatiser tout leur processus. Disons qu'il y a une entreprise qui nous suit en ce moment, un business qui nous écoute en ce moment, qui est coincée dans les voies traditionnelles, mais qui aimerait bien passer à l'automatisation, mais sans savoir par où est-ce qu'elle devrait commencer. Selon vous, par où est-ce qu'elle devrait commencer? Vous avez parlé de plusieurs aspects, mais alors, par où une telle entreprise peut commencer?
Je dirais qu'elle doit commencer par le client d'abord. Et quand je dis client, okay, c'est pas seulement ce qu'on entend par client en général. Le client, c'est également le collaborateur.
Ok, ok.
Voilà, donc c'est quand je parle d'expérience client, elle est beaucoup plus large. On fait quelque chose, on automatise pour répondre à un besoin. S'il n'y a pas de besoin ou si la solution ne répond pas au besoin, elle ne sert à rien, elle ne sera pas utilisée comme il faut ou en deçà de ses capacités. Mm-hmm. Donc au final, parce qu'il faut dire que des fois, un processus d'automatisation peut être coûteux. On peut être coûteux aussi bien en ressources financières qu'en ressources humaines. Mmh. Donc, il est important dès le départ de s'assurer de cette conformité avec les besoins. Et il est également important de garder à l'esprit qu'il faut un processus d'adaptation régulier.
Okay.
Parce que les besoins évoluent, les contextes évoluent. Et donc, il faut savoir très rapidement s'ajuster et donc répondre à ce besoin-là. Et dans un processus d'automatisation également au sein d'une entreprise, il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une implication de toutes les parties prenantes et une responsabilisation.
Okay.
Une responsabilisation dans le sens où chacun doit savoir quel est l'impact que j'ai ou quelle est l'implication si le processus d'automatisation n'est pas bien pensé ou n'est pas fait dans les règles de l'art. Et comme je l'ai dit également, c'est analyser, et par exemple, des choses qui peuvent faciliter, par exemple, c'est de se mettre, de mettre ce qu'on peut appeler des personas, etc.
Ouais.
C'est de voir, parce qu'un processus, un outil ou un logiciel, s'il n'est pas simple, il sera pas utilisé comme il faut. Donc, il est important, des fois, de se mettre dans la peau des autres, donc de créer ce qu'on peut appeler des personas ou autres, de façon à s'assurer que la solution, elle est simple et elle est sécurisée.
OK.
On a une capacité, parce que j'ai parlé d'adaptation aussi, qu'elle a une capacité de la, comment je dirais ça, de la mettre à jour de façon relativement facile.
Ok, je vois. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'équipe qui travaille avec vous au sein de l'entreprise, le fait de devoir lutter à ce qu'il y ait cette forme de responsabilisation au sein de tous les membres de l'équipe, n'a-t-il pas des défis qui sont liés par rapport à cela? Ou bien c'est une chose auquel les gens s'adaptent facilement. Vous, en tant que étant habitué à cela, est-ce qu'il y a des défis qui sont liés à cela, ou bien c'est une chose à laquelle les gens s'adaptent rapidement?
Moi, de mon expérience personnelle, après ce n'est peut-être pas le cas de tous les entrepreneurs, mais moi personnellement, je trouve que les ressources humaines sont la ressource la plus cruciale dans le cadre d'un projet de digitalisation, d'automatisation.
Ouais.
Et dans ce contexte-ci, après, j'ai ma manière de fonctionner et des exigences et des standards.
Mmh.
Des fois, une conscience professionnelle peut ne pas être suffisamment présente.
Oui.
Et donc, il y a tout un travail qui fait que les gens... Et c'est peut-être là où le fait que tout le monde partage la même vision, que tout le monde comprenne le sens du projet,
oui,
que tout le monde se sente impliqué, que tout le monde comprenne son rôle et quel est l'impact de tout ça au final, qui va faire que les gens vont s'impliquer ou pas.
Ok, je vois. Hein, je comprends très parfaitement. C'est important que tout le monde puisse comprendre et savoir quel est l'impact qu'il va devoir apporter. Alors, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu sur le secteur en tant qu'analyste. Vous, en tant qu'analyste, je pense qu'on va finir par là aujourd'hui. Prenons le secteur, l'Afrique, non seulement l'Afrique francophone, mais aussi l'Afrique en général. Il y a certainement plusieurs domaines dans les secteurs financiers qui sont d'une certaine manière ouverts et qui peuvent être des bonnes plateformes pour des investissements et aussi ramener des profits dans les secteurs financiers. En tant qu'analyste, quels sont selon vous le secteur sur le marché africain pour le moment, en tout cas pour l'instant, que vous trouvez qui sont assez ouverts et qui peuvent ramener des profits, hein? Vous n'avez pas besoin de donner beaucoup de détails parce qu'il y a sûrement... Il y a sûrement de compétiteurs, voilà, qui vous suivent en ce moment et qui vous écoutent en ce moment. Mais d'un point de vue analytique, quels sont ces domaines-là?
D'accord. Je vais d'abord partir du constat que aujourd'hui, surtout en Afrique francophone,
ouais,
la plupart des fintechs sont orientés vers le paiement.
Ok.
Alors qu'il y a dans le domaine des services financiers,
oui,
il y a encore aujourd'hui beaucoup de domaines sur lesquels il est possible d'apporter de la valeur ajoutée, il est possible d'apporter, de modifier les habitudes.
Okay.
Par exemple, si je prends tout ce qui est investissement, financement, il n'y a pas suffisamment de, pour ne pas dire il n'y en a presque pas, de fintech qui opèrent dans ce domaine-là. Il n'y a pas forcément suffisamment de... Dans la RegTech, aujourd'hui, le secteur financier est un secteur qui est très réglementé. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent apporter dans le domaine du KYC, de la connaissance du client, donc avec tout ce que cela implique. Il y a beaucoup de domaines, on peut éventuellement regarder du côté de tout ce qui est advisory, robot advisory, la surtech, voilà. Donc, pour vous dire que le secteur financier est très large et très varié et que ce n'est pas uniquement le paiement. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'aller trouver d'autres segments que les segments traditionnels, bancaires ou financiers traditionnels, auxquels on peut proposer d'autres types de produits qui sont beaucoup plus adaptés. J'ai envie de dire qu'il y a un boulevard.
Ok, je vois et je comprends parfaitement tout ce que vous avez eu à souligner. Vous avez souligné que le secteur financier est très varié et que ce n'est pas seulement le paiement sur lequel on devrait insister, mais il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer. On va finir par
tout
là.
Fait.
En tout cas, Mariam, merci beaucoup. Merci pour cet échange.
Merci à vous, John. Ça a été un plaisir.
Merci, ça a été un plaisir pour moi également. Mais pour ceux qui aimeraient peut-être vous contacter ou vous joindre, comment est-ce qu'ils peuvent le faire?
On peut nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou LinkedIn, sur notre page, Next Africa Finance Solution, sur notre site internet www.nafs.global et sur l'adresse email welcome@nafs.global.
En tout cas, merci beaucoup Mariam, et c'est très bien noté. Merci.
Merci à vous, John.
Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web talentinthecloud.io.